Cela étant dit, on va entrer dans le vif du sujet de ce mois-ci. C'est évidemment, ici comme ailleurs dans le monde diplomatique comme partout, la guerre annoncée, la guerre préventive de Monsieur Bush. Et vous commencez, Ignacio Ramonet, votre édito par le titre « Avant-guerre ».
Oui, bon, évidemment, le numéro de février est largement consacré aux préoccupations aujourd'hui de l'ensemble des citoyens, non seulement des rédacteurs et collaborateurs du monde diplomatique, c'est-à-dire l'idée que tout indique que nous sommes, disons, à la veille de l'ouverture des hostilités. Hein, et que, malgré tout, les opinions publiques, en Europe en tout cas, restent largement convaincues que cette guerre qui s'annonce est une guerre infondée. C'est-à-dire qu'il ne semble pas, pour l'instant, que l'on ait convaincu les opinions publiques des arguments justifiant un tel conflit. Les rapports présentés par les inspecteurs des Nations Unies à l'ONU n'ont pas apporté de preuves concluantes. Les preuves encore alignées récemment par le secrétaire d'État américain, M. Colin Powell, dans un show quasiment télévisuel, n'ont pas été concluantes non plus. On a pu démontrer d'ailleurs par la suite qu'il s'appuyait lui-même sur le rapport présenté quelques jours auparavant par les Britanniques et où il y a eu une utilisation de documents universitaires datant d'il y a 10 ans et n'étant pas fondés. Donc tout ceci est, je pense que en partie, cette accumulation de fausses preuves fait qu'on est devant quelque chose d'extrêmement sérieux comme une guerre. Et puis, on a l'impression parfois qu'on assiste à des démonstrations qui sont bouffonnesques, hein, des bouffonneries. Donc, il y a tout de même la préoccupation, comme ça, de se trouver devant un fait accompli, hein, un fait accompli en raison de la volonté des États-Unis d'aller faire cette guerre. On n'arrive pas encore à savoir très exactement pour quelles raisons ce conflit va se produire. Il y a des spéculations, bien entendu. On imagine que on essaie de rattacher ce conflit à la guerre contre le terrorisme international, mais là non plus, c'est pas à démontrer. Ce qu'a avancé Colin Powell ne semble pas du tout une démonstration services de renseignement américains eux-mêmes mettent en doute les liens entre le régime de Bagdad et Al-Qaïda. Tous les observateurs sérieux, bien entendu, ne voient aucune passerelle, aucun type de relation organique, disons, entre un réseau comme Al-Qaïda, comme Ben Laden et le régime de Bagdad. Donc on n'arrive pas très bien à savoir, si ce n'est que les États-Unis sont décidés à conduire cette guerre, qu'ils ont enrôlé un certain nombre de pays d'ailleurs dans cette croisade, des pays qui sont alignés quoi qu'il arrive, quels que soient les doutes que l'on puisse avoir sur les preuves, qui sont complètement alignés, des pays bien entendu notamment européens, l'Espagne, l'Italie, le Royaume-Uni, d'autres, et puis de nouveaux pays, des pays qui sont à la veille de faire partie de l'Union européenne et qui également massivement s'aligne sur la position des États-Unis. Il y a aussi la préoccupation de savoir ce qui se passera après ce conflit dont les États-Unis ne parlent pas.
Il y a aussi des pays qui s'alignent pas, la France ne s'aligne pas, l'Allemagne ne s'aligne pas, la Chine traîne les pieds.
Alors il y a des pays non seulement qui ne s'alignent pas, mais qui commencent réellement à nous surprendre, parce que on pouvait imaginer que l'attitude en particulier de la France et de l'Allemagne est une attitude, disons, c'est une gesticulation. On pouvait imaginer que ça faisait partie d'une sorte d'attitude qui devait, une sorte d'hommage au souverainisme traditionnel gaulliste français, mais que finalement il arrive bien un moment où on allait se rendre à la réalité de la vie politique, et en particulier certains pensaient que finalement le grand jour de la présentation des preuves publiques par M. Colin Powell au sein du Conseil de sécurité, que ce jour-là, eh bien, effectivement, ces pays qui résistaient jusqu'à présent diraient, eh bien, devant l'évidence des preuves, on ne peut plus, bien entendu, nier l'évidence, etc. Ça n'a pas été le cas. Ça n'a pas été le cas, et on a même l'impression que depuis lors, la position de la diplomatie française, allemande, belge d'ailleurs, se radicalise, parce qu'il y a eu depuis le veto à l'OTAN, et il y a eu la déclaration franco-germano-russe avec la nouvelle position du président Poutine, qui fait que désormais ceux qui ne s'alignent pas, ceux qui résistent à cette aventure guerrière sont plus nombreux et plus importants, parce que bien entendu la France, en tout cas la Russie et la Chine dont vous parliez, ont le droit de veto au sein du Conseil de sécurité et pourraient arrêter, en tout cas pourraient ne pas permettre aux Nations Unies de voter une résolution autorisant l'usage de la force. Et à ce moment-là, on se trouverait devant une situation tout à fait inaugurale. On ne saurait pas ce que deviendrait même à la limite les États-Unis. On est par conséquent dans une situation qui commence réellement à surprendre, c'est-à-dire en particulier en raison de cette attitude franco-allemande. Il est tout de même assez lamentable de constater qu'au moment où cette position franco-allemande à laquelle d'ailleurs s'associe avec beaucoup d'énergie la Belgique, eh bien, il est assez lamentable de constater que ces pays sont un peu seuls au sein des 15. Hein, et que au moment où une sorte d'indépendance, d'autonomie, etc., européenne pouvait se manifester, dans un cadre de non-hostilité à l'égard des États-Unis, c'est-à-dire on pourrait imaginer un autre pôle dans ce monde tellement unipolaire, eh bien, on a vu comment, disons, une douzaine d'États, le reste des États européens, pratiquement de l'Union européenne, ont fait allégeance avec un esprit de vassalité tout à fait consternant.
Get your business running. Get updated. Now.
Jusqu'où cette résistance germano-belgo-française au niveau européen peut aller?
Eh bien, écoutez, déjà, si vous voulez, elle est allée plus loin que ce que moi-même.
Parce que depuis des années, on vit dans la certitude que de toute façon, on n'y peut rien. Voilà, on se souvient de François Mitterrand lors de la guerre du Golfe précédente. Hein, on se souvient du Kosovo, où on nous présentait les choses, bon, vous pouvez gesticuler si ça vous fait plaisir, mais de toute façon, on n'y peut rien. Quoi,
hein. Ils avaient contourné le Conseil de sécurité, hein. Ils n'avaient pas osé le problème au sein du Conseil de sécurité, parce qu'ils n'auraient pas eu la majorité. La guerre du Kosovo a été faite sans l'autorisation du Conseil de sécurité.
Et au Kosovo, les Européens n'étaient pas suivistes par rapport aux Américains. Ils ont joué un rôle actif pour une intervention au Kosovo, les Européens. Donc on n'était pas tout à fait dans le même cas de figure.
Donc là, on montre au moins jusque-là qu'on peut s'opposer à la politique américaine. On montre ça.
Je pense qu'on peut s'oppositionner contre l'administration américaine et on peut en tout cas réclamer que, disons, les choses se passent dans un cadre légal international admis par tous, parce que le problème est là. Car finalement, face à l'attitude des chancelleries franco-allemandes, et qu'est-ce qu'on entend? On entend des dirigeants américains, que ce soit le ministre de la Défense ou que ce soit le secrétaire d'État, qui disent « mais de toute façon, nous disposons d'une coalition qui nous permet de faire la guerre ». Hein? Donc ça veut dire que il y a tout de même une position des États-Unis qui consiste à dire « on pourrait la faire finalement en dehors du cadre des Nations Unies ». Tout le problème, c'est que s'ils la font à l'extérieur du cadre des Nations Unies, c'est plus du tout la même chose. Par exemple, j'imagine qu'ils auraient beaucoup moins l'appui explicite, disons, des gouvernements arabes qui auraient plus de difficultés à s'aligner sur les États-Unis par rapport à leur opinion publique dans un cadre qui ne serait pas celui des Nations Unies.